Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, Inly, Axéo et ID Pro sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et nous voici de retour sur l'antenne de Radio Imo. Cette deuxième journée du Salon CIMI Porte de Versailles approche de la fin. Ça a été une journée intense encore une fois. Et on va parler maintenant de logistique, un sujet central dans l'immobilier d'entreprise et l'investissement. C'est la décarbonation du secteur logistique, un secteur clé pour l'économie réelle, mais fortement exposé aux enjeux climatiques, réglementaire et financier, on en a déjà parlé. La question, c'est n'est plus faut-il décarboner, mais plutôt comment et à quel rythme et surtout avec quel levier. Et moi, je suis entouré de 3-4 experts pour en parler. Alors d'abord, à ma droite, Arnaud Allard. Bonjour Arnaud.
Bonjour Grégoire.
Arnaud, tu es manager tertiaire efficacité énergétique chez ACT Commodities France. Merci d'être avec nous. Aymar de Germay, bonjour Aymar.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir sur notre antenne. Vous êtes secrétaire général chez Argan. Merci d'être avec nous. À ma gauche, Geoffrey Oudou. Bonjour Geoffrey.
Bonjour Grégoire.
Geoffrey, vous êtes directeur des investissements chez Etche, filiale du groupe KKR. Et Pierre-Louis Dumont. Bonjour Pierre-Louis.
Bonjour Grégoire.
Vous êtes Managing Director INL chez CBRE France. Merci beaucoup messieurs. Alors je vous propose de discuter donc de ces enjeux avec une première question pour vous tous. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le secteur logistique en matière de décarbonation? Et qui veut prendre la parole en premier? Aymar, allez.
Bah écoutez, nous sommes une foncière, nous sommes le numéro 1 en France pour l'immobilier logistique et la décarbonation, c'est au cœur de notre stratégie. Donc ça représente un travail important pour diminuer les émissions dans un cadre qui peut paraître contre-intuitif. Est-ce que la logistique est décarbonable? Et nous, on dit que ce grand bâtiment, ce hall des courants d'air, est une classe d'actifs sur laquelle on peut faire des efforts très importants en termes d'efficacité énergétique et de décarbonation, on vous expliquera ça tout à l'heure.
Avec plaisir. Arnaud ?
Pour le coup, je suis totalement d'accord. Depuis quelques années, c'est un des actifs que nous, chez ACT Commodities, en tant que délégataire C2E, donc, où on fait office de financement dans des travaux de rénovation énergétique, c'est la classe d'actifs qu'on voit le plus depuis 2 ans, qui tend vers justement ces sujets de décarbonation.
Geoffrey ?
Nous, en tant qu'investisseur institutionnel, évidemment, c'est au centre de notre stratégie. On doit d'ailleurs suivre même une stratégie de zéro, net zéro carbone en 2050. Alors l'idée, c'est d'être net zéro carbone avant 2050, même en 2040 ou même avant si possible. Et on en parlera tout à l'heure. Il y a un outil européen qui s'appelle CREM, Carbon Risk Real Estate Monitor. Et donc l'idée, c'est de ne pas être stranded. On en parlera tout à l'heure, mais donc c'est vraiment au centre de notre stratégie également de décarboner tous nos actifs.
Et Pierre-Louis ?
Moi, j'apporterais juste une précision. En effet, c'est important parce que 9% des émissions de gaz à effet de serre carbone mondiaux, c'est la logistique.
OK.
Mais là, on va parler majoritairement d'immobilier. Mais l'immobilier, c'est entre 10 et 20% de ces 9%. Le reste, c'est majoritairement encore le transport. Donc, on va parler immobilier pur, mais on pourra aussi peut-être ouvrir le sujet sur le lieu d'implantation.
Effectivement.
Quel immobilier, où je me mets, ça a un impact parfois plus important que de ne pas retaper son bâtiment.
Voilà. Pierre-Louis, je reste avec vous. Côté marché, est-ce que la performance carbone, elle devient déjà un critère de liquidité, de valeur?
Alors, oui, mais de manière très claire. Juste pour faire une photographie, le parc français.
Ouais.
Est composé à 80% de bâtiments non certifiés. Uniquement 20% sont certifiés et c'est les bâtiments qui ont été livrés, grosso modo, ces 5-7 dernières années.
Ok.
Donc il y a un sujet parce que, comme vous avez peut-être constaté, on a un stock d'offres dans la période actuelle qui est très important disponible et une grosse partie de stock, c'est les bâtiments qui ne sont pas certifiés. Et on se retrouve en face de nous avec les utilisateurs qui ont ces mêmes obligations légales d'arriver à une neutralité carbone en 2030 ou 2040 selon les engagements des entreprises. On n'a plus aujourd'hui une entreprise digne de ce nom qui va prendre un bâtiment qui n'est pas au minimum labellisé. Et ça, c'est, on n'en parle quasiment même plus. C'est le bas carbone aujourd'hui. Le bas carbone dans à la fois la construction, mais surtout aussi de l'exploitation.
Geoffrey, d'un point de vue international, parce que vous faites partie d'un investisseur qui est international, vous considérez que la logistique française, elle est en avance, dans la moyenne, plutôt en retard? Vous avez un aperçu?
Question assez large. Alors, en effet, déjà, la décarbonation dans l'immobilier, il y a quand même plusieurs piliers. Il y a dans la construction. Dans la construction, je dirais qu'on est plutôt en avance parce qu'on a un savoir-faire en France, on a des bons ingénieurs, enfin, on sait faire du béton recyclé, maintenant, on sait faire des structures en bois. Alors après, c'est difficile de vraiment décarboner parce qu'il y a des logiques de recyclage qui sont compliquées et pas forcément efficientes en termes de coûts et de faisabilité. Mais je dirais qu'on sait faire. Ensuite, il y a dans les usages, je dirais aussi que dans les usages du bâtiment, ça y est, on a eu beaucoup de lois, on est en train d'installer des panneaux sur les stationnements, en toiture, il y a des obligations légales, il y a une volonté de faire. Donc c'est en bonne marche, je dirais qu'on est plutôt en avance. Et après dans le transport pur, aujourd'hui, moi, je ne vois pas de grosses demandes de nos locataires qui sont en train de changer toute leur flotte de camions par des camions électriques. Autant on le voit un peu pour les particuliers, on est en train tous de passer à la voiture électrique. Ouais. Et on le verra peut-être après, mais toute cette idée d'avoir de la consommation d'électricité produite sur les bâtiments, aujourd'hui, je n'ai pas encore de locataires qui me disent « faites des investissements pour avoir de la production, il y a des obligations légales », mais il n'y a pas encore de demande de locataires qui nous disent « on est en train de changer notre parc de camions, on est en train de vraiment se décarboner sur le transport ». Donc aujourd'hui, d'un point de vue investisseur, nous, je trouverais qu'on est plutôt en avance et reste encore le locataire à nous suivre aussi pour décarboner l'ensemble de la filière.
Pierre-Louis, pour compléter.
Ouais, je dirais plus spécifiquement que sur tout ce qui est last mile, c'est-à-dire livraison du dernier kilomètre,
exactement.
Où il y a des solutions techniques pour les véhicules qui fonctionnent déjà. Aujourd'hui, on ne fait plus une plateforme de messagerie non équipée de bornes de recharge.
Bien sûr.
Par contre, c'est vrai, sur les grosses plateformes logistiques assez éloignées des centres-villes, les camions électriques, ils fonctionnent pas encore parfaitement.
Non. Même voilà. Si on est passé sur certaines plateformes à du biocarburant, ça existe, qu'il y ait ce genre de démarche qui soit faite.
Oui, il y en a beaucoup qui l'ont fait.
Ouais.
Okay. C'est vrai que c'est une distinction qui est importante à faire entre le last mile et la logistique. Là, c'était une question sur la logistique, mais le last mile, évidemment, tout le monde livre maintenant en véhicule décarboné.
Messieurs, est-ce que vous voulez compléter?
Sur les usages de nos locataires, effectivement, je confirme. Je pense que le sujet se fait au niveau des messageries, tout près des villes, où là on a des équipements d'électrification pour les véhicules. Mais sur la plupart de nos entrepôts, on est encore dans du thermique classique, un peu de véhicules au gaz, mais effectivement encore dans du classique, il y a un gros travail à faire sur cet enjeu-là.
Je voudrais rajouter quelque chose.
Bien sûr.
Je trouve qu'on est en retard, il y a un truc qu'on ne fait pas du tout, c'est la compensation. C'est-à-dire qu'on est à fond dans le réduire l'enveloppe énergétique du bâtiment, limiter dans la construction les analyses de cycle de vie. Enfin, on a vraiment développé beaucoup de choses, mais il reste cette partie qu'on ne peut pas décarboner, c'est la carbonation obligatoire, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a aussi des contraintes réglementaires. On fait des bâtiments qualitatifs. Et on a des contraintes, on ne peut pas décarboner une toiture par exemple, c'est impossible parce qu'on doit répondre à des contraintes légales. Et on n'a pas encore de filière de compensation pour le reste. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas livrer aujourd'hui un bâtiment en construction zéro carbone parce qu'il n'y a pas de label. En France, c'est très cher. Sinon, il y a des filières, mais qui sont étrangères en Afrique. On n'est pas vraiment sûr que. En tout cas, ce n'est pas très, très clair pour nous aujourd'hui. On ne peut pas compenser à 100% une construction d'un bâtiment. Donc là, je dirais qu'on est peut-être un peu en retard. Je ne sais pas dans les autres pays s'ils arrivent à compenser, mais en tout cas en France, on ne le fait pas trop.
Arnaud, sur cette compensation ?
Alors peut-être sur plus la partie bâtiment existant, moins que sur la construction. Je pense qu'en France, on a des outils importants pour permettre d'être un bon élève, notamment sur la partie des aides à la rénovation, qui est un gros point, qui va permettre de réduire, un, les consommations, mais aussi, deux, justement, de décarboner son parc. Parce que On va travailler sur la rénovation du bâtiment, donc les travaux qu'on peut faire en direct. Si on veut mettre des travaux de GTB, donc voir la consommation actuelle du bâtiment en permanence, qui va aussi permettre de réduire pendant la phase OPEX, donc pendant l'exploitation du bâtiment, cette réduction-là, donc en deux temps, dans l'investissement qu'on fait, mais aussi dans la phase d'exploitation. Et après, il y a la partie aussi décarbonée sur le changement de production d'énergie. Et aujourd'hui, en France, on a les premiers outils pour financer ces travaux-là via les certificats d'économie d'énergie. Depuis 20 ans, c'est le premier levier de financement de la rénovation énergétique en France. C'est plus de 20 milliards d'euros tous les 4 ans, qui a encore été augmenté là jusqu'en 2030 à 40 milliards. Donc sur cette partie-là, on est un très bon élève. Le deuxième acteur européen, c'est l'Espagne, qui s'est lancé il y a 2 ans. Donc ça prouve un peu l'avance qu'on a. Donc là-dessus, on peut être assez fiers. Ouais.
Alors tous, là, si je vous parle de décret tertiaire, exigence ESG des investisseurs, attente des utilisateurs, pression sociétale, c'est quoi selon vous les vrais moteurs de la décarbonation aujourd'hui ? Emma, je vais commencer par vous.
Alors nous, on l'a vécu non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité. C'est-à-dire le fer d'argent, le fer de lance de la décarbonation en logistique.
Ouais. Donc, c'est un vrai argument aujourd'hui.
C'est un argument phare, puisqu'on a des clients qui sont des grandes entreprises françaises et internationales qui ont elles-mêmes des comptabilités carbone à tenir, des reportings à faire. Et donc c'est un argument pour vis-à-vis de nos clients locataires, mais c'est aussi un argument, on l'a évoqué tout à l'heure, en termes de liquidité de l'actif pour la suite. C'est-à-dire le jour où on veut arbitrer, si l'immeuble est certifié, s'il est très efficace énergétiquement et bas carbone, voire zéro carbone, c'est un avantage énorme à la vente. Donc, on l'a mis au cœur de notre stratégie et pour commencer, en fait, on a mesuré. Parce qu'en fait, pendant des années, les émissions carbone, ça n'existait pas. Enfin, ça n'existait pas en calcul. On ne les mesurait pas. Donc, on a fait ce gros travail et ce gros travail, on le fait en s'appuyant sur nos locataires. Puisqu'il faut récupérer les données de consommation énergétique. Là, je parle vraiment des émissions liées à l'utilisation du bâtiment. Donc, les consommations d'électricité, de gaz, etc. Transformer ça en émissions. Puis se dire, on part de quoi ? Nous, par exemple, notre stock, en 22, on a émis 24 000 tonnes sur l'année 22 au titre de l'utilisation de nos bâtiments. Donc après, on s'est dit, d'ici 2030, on va diminuer ça, on va diviser ça par deux.
Ok, 12 000 tonnes.
Là, donc, on mesure, on établit une stratégie, puis après, effectivement, il y a les outils. Et il y a deux outils pour nous, dans une foncière comme nous, c'est les nouveaux bâtiments et l'existant. Les nouveaux bâtiments, c'est un bâtiment qu'on appelle autonome, qui est carbone zéro à l'usage. Comment on fait ? Évidemment, on a utilisé tous les outils permettant d'avoir la meilleure efficacité énergétique possible. Donc, pompe à chaleur RR, installation photovoltaïque en toiture à usage d'autoconsommation, batterie de stockage, luminaire LED à la détection de luminosité et de présence, GTB, tous les outils permettant de minimiser les consommations. Et puis, vous avez parlé de compensation. Pour compenser le delta, en France, on peut quand même faire des choses. Puisque là, on lance une opération de reforestation à Cestas, en Gironde. Ouais. Label bas carbone délivré par l'État. Et dans 5 ans, on aura normalement un crédit carbone de 8 000 tonnes. C'est-à-dire qu'on sait compenser le kilogramme résiduel d'émissions de notre entrepôt autonome sur les 10 années de développement à venir, grâce à ça. Et puis après, il y a le parc existant. Et là, c'est le vrai enjeu. Comment on réduit ? Un entrepôt traditionnel des années 2000, c'est à peu près 10 kilos par an par mètre carré, à peu près. On a mesuré notre situation à fin 22, on était environ à 7 kg d'émissions par mètre carré par an. Aujourd'hui, on a 4,5 et on va descendre pour être un peu moins de 3, sachant qu'autonome est à 1. Et évidemment, il y a tout le stock du parc. Comment on fait ? C'est exactement ce qui a été dit. On va bannir les chaudières gaz, mettre en place des pompes à chaleur RO, mettre en place de la GTB, bien sûr, optimiser ce qu'on peut, mais surtout, en fait, évacuer le gaz. Et c'est comme ça qu'on arrive à diminuer drastiquement les émissions, puisqu'en fait, on a à la fois le faible teneur en carbone de l'électricité nucléaire en France par rapport au gaz. En gros, on divise par 6. Et puis ensuite, on a le coefficient d'efficacité énergétique des PAC. Et ça, c'est à peu près 4. Donc, vous voyez, c'est énorme, la dégringolade en termes d'émissions. Donc, on a les leviers dans la logistique pour faire tout ça. Mais c'est une volonté et c'est surtout une stratégie pluriannuelle à mener.
Sur le long terme.
Absolument.
Pierre-Louis ?
Juste, le point de vue investisseur est important. À deux titres. Un, en termes de valeur de l'actif, mais deuxièmement, en termes d'attraction pour les utilisateurs. On mène une étude tous les ans auprès des 100 plus grands propriétaires d'entrepôts en France, consommateurs d'entrepôts. C'est à peu près 100 entreprises qui représentent 150 millions de mètres carrés en Europe. Et ces gens-là, ils nous disent quoi ? Ils nous disent qu'il y a 70% d'entre eux qui sont en train de travailler sur leur stratégie carbone. Il y en a 40% qui ont déjà leur plan. Et dans ce plan-là, de manière très claire, à l'exception, je reviens là-dessus parce qu'on l'a mis de côté pour l'instant, de la situation géographique du site, ils n'hésiteront pas à déménager pour aller sur des sites qui le permettent dans cette trajectoire. Mais je reviens juste sur cette histoire de localisation, parce qu'il y a des choses aberrantes. On va demander à la filière de décarboner. Quand vous forcez des entreprises à se mettre à 200 km de Lyon pour livrer Lyon, parce qu'ils ne veulent pas délibérer un terrain, c'est pas bon pour la planète.
Non.
Parce que, encore une fois, 80% du coût carbone, c'est le transport.
Il y a encore des incohérences.
Oui, bien sûr.
Geoffrey ?
Alors, évidemment, nous, on n'a pas de pression des utilisateurs. Nous, vraiment, je pense que notre le chemin de pensée, il est vraiment. C'était la COP de Paris 21 hein, qui a dit qu'il fallait donc limiter les émissions de gaz pour éviter un réchauffement climatique de 1,5 degré. Bon, maintenant, on sait que ça va être 2. Et donc, c'est de ça que je vous disais, l'outil crème tout à l'heure est parti de ça. Et vraiment, nous, c'est plutôt une pression qu'on se met les investisseurs nous-mêmes. Avant même celle des utilisateurs, j'ai envie de dire, ou sociétal, pour reprendre votre question, nous, c'est vraiment une pression des investisseurs. On est vraiment dans cette ligne de conduite. Quand on fait un des audits d'acquisition, on regarde les donc on rentre nos émissions dans cet outil Excel en fait, et on dit qu'on est stranded quand on respecte pas. Donc au fil des années, si vous voulez, ça fait une courbe et on doit arriver à zéro en 2050. On dit qu'on est stranded chaque année si jamais on émet plus d'émissions sur le bâtiment
que ce qui est prévu.
Et donc, quels sont les investissements qu'on va devoir faire pour ne jamais être stranded ou voire même être net zéro. Et pour revenir à ce que disaient mes collègues tout à l'heure, à un moment, zéro carbone, il faut donc plus de gaz sur les bâtiments. Et donc, ça coûte de l'argent parce qu'il faut remplacer les chaudières gaz par de l'électrique. L'avantage qu'on a, et c'est vrai que là, on commence à avoir tout dit dans l'ordre, donc c'est intéressant, je vais faire la petite conclusion facile. Merci messieurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on on sait le faire. C'est financé par l'État avec les C2E, puisqu'on peut remplacer des chaudières gaz sur les bâtiments existants par des pompes à chaleur. Et nous, c'est ce qu'on commence à faire, notamment avec ACT. Donc c'est marrant de vous retrouver aujourd'hui, Arnaud. On remplace des chaudières gaz par des pompes à chaleur avec des chaudières électriques d'appoint et on émet zéro. Argan va encore plus loin et on y pense aussi, ils installent des batteries qui permettent d'avoir une autoconsommation quand il y a un peu de production d'électricité sur le bâtiment et qu'elle ne soit pas que autoconsommée la journée mais aussi le soir justement quand on doit chauffer les entrepôts. Et donc là on commence à avoir des bâtiments qui sont autonomes, c'est d'ailleurs la marque d'Argan mais qui est un petit peu en avance sur tout le monde et qui compense aussi, donc je suis ravi de l'apprendre que vous le faites également. Mais donc nous c'est plutôt une pression des investisseurs, oui. Voilà, consommer tout seul.
Arnaud, chez ACT, vous accompagnez les acteurs tertiaires et logistiques donc sur ces sujets. Question, est-ce que c'est la réglementation qui déclenche l'action ou bien est-ce que c'est le marché qui déclenche l'action ?
Si je résume un peu ce qui vient d'être dit ici, nous, on va avoir les deux aspects. On va avoir d'un côté la pression que se mettent les investisseurs eux-mêmes. Donc, c'est un peu ce qu'on a autour de la table ici. Ouais. Quand on a une société, un grand nom leader de la logistique, forcément, on va vouloir enclencher des actions et se dire, nous, à cette date-là, on va être zéro carbone, on va avoir les bâtiments les plus optimisés. Donc il y a cette pression interne qui va être vue. Donc là, après, il y a toutes les stratégies qui sont décidées en termes d'investissement, en termes de direction qui vont être prises. Donc là, nous, on va les accompagner pour inclure les C2E dans ce schéma-là qui est déjà prévu. Après, il va y avoir aussi un schéma opportuniste, parce que dans le secteur des C2E, c'est régi en grande majorité par des arrêtés publics qui vont être drivés aussi par l'ambition du gouvernement. Donc en l'état aujourd'hui, c'est de décarboner le parc, donc d'aller vers des solutions électriques, donc chaudières, géothermie. Et donc il y a des opportunités de temporalité pour faire ces travaux-là. Donc il y a ceux qui vont savoir les saisir et donc s'y prendre au bon moment. Ça veut dire qu'on va lancer les bonnes actions au bon moment et à moindre coût. Donc forcément, derrière, ça va aussi valoriser l'actif. Donc un, pour l'investisseur, mais deux, aussi pour l'attractivité du bâtiment. Et c'est là qu'il y a la deuxième partie sur la partie locataire en fait hein, qui vont eux vouloir aussi aller vers des bâtiments qui sont les plus autonomes, qui consomment le moins parce que demain ça va être aussi impacté chez eux et donc ça va engendrer cette attractivité. Donc je vais dire que l'enjeu réglementaire est important parce que il y a 2-3 thématiques. Les notes, c'est le décret tertiaire qui va donner la grande vision. Et après, il y a aussi ce name and shame qui revient au niveau. Donc, on va jouer évidemment là-dessus. Mais il y a derrière les ambitions de chacun. Et on voit, c'est assez simple, que ceux qui s'y prennent au bon moment et qui veulent y aller, en sont contents à la fin. Parce qu'ils dépensent moins, ils optimisent leur bâtiment. Le bâtiment prend de la valeur et ça a de l'attractivité. Et donc, le taux de location est quasiment proche de 100%.
Emar.
Oui, j'avais envie de dire avec les utilisateurs, pour prendre une formule, on a destin carbone lié. C'est-à-dire que nos locataires ont des enjeux carbone eux aussi. Et donc, ce dialogue, on l'engage ensemble, enfin tous les deux, dans les deux parties, et on trouve des solutions. Il y a plusieurs moyens, en fait, d'avancer. Il y a les équipements dont on a parlé, j'y reviendrai dans quelques instants. Mais il y a d'abord sensibiliser.
Ouais.
Sensibiliser parce que, malheureusement, la guerre d'Ukraine nous a servi, puisque avec la hausse forte du coût du gaz, ils ont enfin mis en place des mesures de sobriété. On rentrait parfois dans des entrepôts,
où on avait des températures, mais c'est incroyable. On était à 17, 18 degrés dans certains entrepôts, c'était incroyable. Donc la sobriété, aujourd'hui, c'est une réalité.
Okay.
La prise de conscience de ça. Ensuite, on sensibilise également nos locataires sur l'achat d'énergie verte certifiée, enfin d'électricité verte certifiée. Et là, vous passez de 50 grammes à 10. Donc on gagne encore là-dessus. Et puis enfin, nous, chez Argan, on est assez transparent, c'est-à-dire qu'on engage ces travaux, on explique à notre client qu'il va non seulement gagner en termes de bilan carbone, mais qu'il va aussi gagner sur sa facture énergétique. Et donc, on le fait participer avec un petit loyer complémentaire. On l'associe à cette démarche. Et cette démarche, on la vend, on l'explique et on la vend. Ça veut dire que ça passe auprès de nos locataires.
C'est une co-construction.
Absolument, absolument. Et effectivement, après, il y a des moyens qui sont nous donnés via les C2E, qui font qu'en gros, si je donnais un projet chez nous de remplacement de PAC, c'est à peu près 25 euros du mètre carré. Avec le C2E jusqu'à fin 25, on descendait la note, allait autour de 9. Et avec la nouvelle formule, on va être entre 5 et peut-être même en dessous.
Même zéro.
Même zéro. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très accessible et qui est, enfin, qui a le bon sens, facilité par l'outil qui est mis à notre disposition avec les certificats d'économie d'énergie.
Geoffrey ?
Je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai qu'on peut voir ça aussi comme un investissement rentable dans la mesure où ça permet aussi de baisser les charges des locataires. Et particulièrement en ce moment où bon, les niveaux de loyer sont quand même assez élevés maintenant en logistique. Donc il y aura vraiment un choix qui va se faire par les locataires parce qu'il y a un petit peu quand même de vacances et donc ils vont forcément choisir en priorité les entrepôts les plus récents, les plus confortables pour eux, mais aussi les moins chers dans le sens où ils ont peut-être des loyers un peu plus élevés mais qui s'expliquent par la qualité du bâtiment et comme les charges sont beaucoup moins élevées, bah, finalement ils vont s'y retrouver. Donc tout ça se lie, on va commencer à faire des associations avec nos locataires intéressantes.
Pierre-Louis, est-ce que vous voulez compléter ?
80% des entrepôts sur ces deux dernières années qui ont été loués, c'est des bâtiments certifiés.
Ok. Ouais, ce qui veut tout dire. Messieurs, pour conclure, je vais vous demander à quoi ressemblera selon vous un actif logistique désirable demain ? Question plus ouverte, vous avez 3 heures. On commence avec vous, Arnaud.
Alors, déjà, il sera financé par les C2E. Non, je pense que Aymar a bien résumé tout à l'heure un peu à quoi ressemblera cet actif logistique. C'est qui sera autoconsommateur. Donc ça veut dire qu'on va travailler sur du stockage, qu'on va travailler sur la production solaire aujourd'hui. Hein. On a encore des arrêtés réglementaires qui nous obligent à le faire sur des pompes à chaleur. Le gros enjeu, je vois qu'on n'a pas trop cité encore, mais qui reste complexe pour moi parce que je le vois très peu aujourd'hui. On s'est très peu demandé dans la rénovation. Alors malgré tout, on le fait ensemble en effet avec Geoffrey sur un actif. C'est le travail sur l'enveloppe du bâtiment. Qui pour elle aussi, on le disait, c'est dur de décarboner en isolant un bâtiment, mais ça permet de réduire les consommations et le confort de l'actif. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est très, très, très coûteux de le faire, où il y a encore très peu de subventions, très peu d'aides, pas très bien réglementé. Je pense que c'est un des points qui est un peu à l'oubli. Mais en dehors de ça, je pense voilà, sur la consommation. Et après, il y a aussi le point des transports dont on a parlé, qui va être sur cette partie du dernier kilomètre, des kilomètres à faire, ou comment on peut décarboner cette partie de la transport. C'est qu'on a commencé à en parler, c'est un autre sujet, on peut en parler très longtemps, c'est les différents scopes d'émissions. Hein. Il y a le scope 1, scope 2, scope 3. On a parlé de ces émissions résiduelles. Comment les compenser en scope 3. Donc, il y a le label bas carbone. Il y a d'autres types de labels d'investissement qui peuvent être faits pour justement aller chercher et réduire à 100% l'émission. Donc ça, je pense aussi, c'est le dernier pas qui peut être activé, qui est la dernière étape. Mais avant d'y arriver, on a un peu de travail encore.
Je reviendrai sur la partie transport, parce que sur l'immobilier, en effet, on va trouver les solutions. On les a déjà trouvées, d'ailleurs, majoritairement. Y a un truc qu'on ne voit plus, qui est l'intermodalité. Ça coûte beaucoup moins cher de passer par un train que par 12 semis. De passer par une barge, etc. Voilà, ça c'est des sujets sur lesquels je pense de manière collective.
Mais le développement du fret.
Du fret est un sujet qui pourrait, chez certains utilisateurs, faire baisser de manière drastique leur empreinte carbone. Voilà. Mais on en parle, il y en a eu, il y en a qui fonctionnent, sur la boisson ça marche bien, mais pas sur tout, c'est dommage.
Geoffrey ?
Bâtiment parfait du futur, c'est celui qui sera capable de produire de l'électricité sur son site, dans nos frais, et donc qui sera consommé également par son utilisateur, qui sera capable aussi d'avoir la puissance pour que l'utilisateur puisse avoir à la fois les voitures de ses salariés, mais la capacité de recharger rapidement, donc des fast charging comme il y a sur les autoroutes, mais donc il faut aussi sécuriser de la puissance sur les sites, donc ça c'est aussi encore un autre débat. Et en effet, en termes de localisation, bah, si en plus il peut être pas loin de ce qu'on appelle des sites multimodales, c'est-à-dire à la fois pas loin de trains ou également de barges, il y a le développement du canal Nord-Europe, enfin il y a des développements
transport fluvial,
ouais. Transport fluvial donc qui vont permettre de faire Paris la Belgique et même Anvers et même déjà et même Paris Dunkerque aussi, donc il y a beaucoup de développement comme ça, donc il y a aussi une localisation avec un peu de multimodal, ce serait parfait, ce serait ça le top bâtiment pour moi.
Emar.
Bah, moi, je pense que l'autonomie 100%. Donc, on est aujourd'hui, nous, pour un bâtiment Ouillon, autour de 40%. Donc, on a encore
un peu de chemin
à faire. Donc,
ça va dans le bon sens.
Mais on va dans le bon sens, donc autonomie 100%. Et moi, j'ajouterais quand même deux autres éléments. C'est le confort des gens qui travaillent dans les entrepôts.
C'est vrai.
Et en fait, pour aussi économiser de l'énergie, nous, on travaille beaucoup sur la lumière naturelle.
OK.
Donc, des ouvertures nombreuses en toiture. Pour apporter de la lumière naturelle, même parfois en façade.
On le voit
on
ici.
On oublie le bardage.
On le voit ici. On est dans un énorme entrepôt au CIMI. Bon, il y a un petit peu de lumière naturelle, mais c'est vrai que quand on n'en voit pas trop, ça tape sur le système à la fin de la journée.
Ah bah c'est terrible. Donc ça, c'est un point très important pour nous en termes de confort. Le fait qu'on ait des pompes à chaleur fait que, avec le réchauffement climatique dont on a parlé, bah, l'été, on peut rafraîchir. Alors, c'est pas climatisé, mais rafraîchir les sites. Et ça, c'est extrêmement important pour les gens qui travaillent à l'intérieur.
Ouais.
Et puis, il y a aussi, on n'a pas évoqué ça, mais la biodiversité.
Mmh.
C'est un entrepôt, c'est plus le hangar, comme je dis souvent aux élus, c'est plus un hangar en tôle posé sur un terrain vague. La logistique d'aujourd'hui, ce sont des bâtiments industriels qualitatifs. Et puis, ce sont des bâtiments qui s'intègrent dans un environnement. Alors, ça reste un bâtiment industriel, mais un environnement qu'on travaille de plus en plus, avec des plantations, des arbres, etc., des espaces verts agréables, pas le tout petit bout de pelouse au bout du parking. Donc il y a un vrai effort là-dessus et je pense que ça, c'est important pour cet entrepôt du futur, ça compte aussi.
Ben messieurs, on pourrait y passer encore plusieurs minutes, voire quelques heures, mais il va être l'heure de nous quitter. Merci beaucoup pour ces échanges, autour de la décarbonation, un sujet encore à travailler pour les années qui viennent, mais qui est déjà bien engagé. Merci beaucoup à ACT Commodities de nous avoir réunis autour de cette table. Je vous souhaite une bonne fin de journée parce que ça va probablement être le dernier interview de cette journée. Et un bon salon CIMI demain pour ceux qui sont présents.
Merci beaucoup. Merci à tous.
Le CIMI du 9 au 11 décembre 2025 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solaré IT, Procivis, Inly, Axéo et IDPRO sur Radio Immo et Radio Territoria.